Henri Gréville, l'écrivaine, va nous occuper ce soir. Pourquoi elle? Eh bien, je suis originaire du Nord Cotentin, de Cherbourg, et quand vous lisez le nom de cette romancière, Henri Gréville, son patronyme, Gréville, correspond à une commune de la Hague, c'est-à-dire la presqu'île ouest du Cotentin, à une trentaine de kilomètres de Cherbourg. Bon, il y aura là en plus une parenthèse tout à fait personnelle. Ma maman avait coutume, me découpait dans la presse locale, les articles étaient censés m'intéresser. Et lorsque nous avons vidé la maison, dans mon armoire, j'ai passé la main sur l'étagère et j'ai retrouvé une coupure de presse où il était indiqué, mais c'était donc un homme, cette femme-là. Bien entendu, il s'agissait de notre connétable Barbet d'Aurevilly qui se piquait de misogynie et qui s'en prenait donc à Alice Fleury, qui prendra comme pseudonyme littéraire Henri Gréville. Donc, elle a pris le nom de la commune paternelle. Jean Fleury n'est pas exactement né à Gréville, il est né à Vasteville. Elle dira plus tard dans ses révélations, notamment dans Un peu de ma vie, elle a essayé de réaliser comme une bio-express. Eh bien, elle dira que c'est pour faire plaisir à son père qu'elle a pris ce pseudo, qui est donc le nom de la commune où elle va séjourner ensuite pendant toutes les vacances, puisque la famille paternelle est originaire de Gréville-Hague. Et chose étonnante, elle va passer ses vacances dans la demeure de Jean-François Millet, qui est pour elle, non pas un membre de sa famille, mais son parrain de baptême. Et lorsqu'elle va rentrer de Russie, je vais en parler tout à l'heure, lorsqu'elle va rentrer de Russie, eh bien, son parrain va lui prêter la maison au hameau Gruchy. Alors, c'est une toute petite masure hein, que nous visitons, que nous connaissons bien, de granit, bien évidemment, parce que vous connaissez un petit peu la nature, le paysage de la côte de la Hague, et c'est quelque chose d'assez frustre. Et donc, Henri Gréville a passé ses vacances dans la maison de Jean-François Millet, qui d'ailleurs était attenante à une propriété de la famille de son père. Donc, vous considérez bien que la proximité entre mon lieu de naissance et l'écrivaine, et le fait que ma maman m'ait laissé presque en témoignage posthume cet article, m'a incité immédiatement à la fréquenter un peu plus assidûment. Et donc, je me suis mise au travail. Pour commencer, je vais vous offrir les vœux d'Henri Gréville. Je les accompagnerai des miens, tout à fait chaleureux pour vous autres. Et puisque Henri Gréville était coutumière de ce petit billet, je les ai consultés à la bibliothèque de l'Arsenal, le petit billet bleu, tout petit, sur lequel elle faisait part de ses vœux de Nouvel An. Sur la feuille que vous pouvez prendre, hein, il s'agit des vœux qu'elle adresse à Jean-Jacques Henner, ami du couple, puisque je vais vous apprendre ensuite qu'elle se mariera. Jean-Jacques Henner est devenu presque pour elle un confident. Et c'est d'ailleurs Jean-Jacques Henner qui a donc réalisé le tableau que vous voyez là. Alors nous allons prendre le temps malgré tout de lire un de ses billets. Je vous propose celui du 31 décembre 1889. Elle écrit « Cher ami, de ma main malhabile » Et ce détail est intéressant car je vous dirai plus tard, le diktat de la santé pour elle était quelque chose de très important dans sa carrière. De ma main malhabile, je vous adresse les derniers mots que j'écrirai cette année pour vous souhaiter un an 90. Nous sommes donc tout à fait à la fin du 19e. Un an 90 plein de gloire et de joie. Jean-Jacques Henner, portraitrice, alsacien d'ailleurs, au-delà des portraits, au-delà des commandes, a fait bien d'autres scènes de genre, etc., etc. Il a obtenu beaucoup de succès à un certain moment de sa carrière. Je vous offre donc des vœux de santé, santé surtout sans laquelle rien n'est rien. Je n'écris à personne qu'à vous, et je vous l'ai présenté un peu comme son confident, c'est vous dire combien vous aime et vous vénère votre fidèle ami Henri Gréville. Donc voilà le genre de correspondance hein, qui transitait entre Jean-Jacques Henner, qui à l'époque habitait 11 place Pigalle, alors que le couple Durand-Gréville va s'installer à Montmartre,
au retour de la période russe. Et donc, je vais en profiter donc, pour vous présenter à partir de ce tableau. Vous en avez donc là la photocopie. Vous pourrez retourner le voir avenue de Villiers, au musée Jean-Jacques Henner. Lorsque le peintre exécute ce tableau, Henri Gréville, née Alice Fleury, a 37 ans. Elle rentre de Saint-Pétersbourg. Elle a quitté la capitale russe en 1872. Alors qu'elle y était arrivée, elle avait 15 ans. Elle est née le 12 octobre 1842. Et elle s'éteindra le 27 mai 1902. Elle n'avait pas encore 60 ans. Donc l'amitié qui s'est liée entre Henri Gréville, le peintre, et son époux a duré donc pendant toute une longue période, notamment la période montmartoise, où bien entendu se retrouvent les écrivains, les artistes, plus ou moins sans trop de fortune. Jean-Jacques Henner, et on est déjà donc dans la veine réaliste comme on le verra dans le roman 19ème. Jean-Jacques Henner souhaite peindre ses personnages dans les attitudes quotidiennes les plus fréquentes. Ainsi, normalement, ici, bien qu'il y ait très peu d'éléments spécifiques à l'écriture, peut-être des feuilles, un cahier sur une table, mais ce qui domine, c'est un fond assez sombre et une jeune femme habillée de turquoise, ce qui n'est pas vraiment fréquent à cette période, et une chevelure rousse. Alors, Jean-Jacques Henner a cette période de peinture et dans sa période rousse. Il demandera même à l'époux d'Henri Gréville de venir poser pour un Christ nu, mais avec une perruque rousse. Il est vraiment dans sa période très très rousse, Jean-Jacques Henner. Je ne suis pas sûre qu'Henri Gréville ait été rousse. D'autres portraits, parce que les sources iconographiques concernant cette romancière ne sont pas énormes. Nous avons donc ce tableau qui date de 1876. Nous trouverons des portraits réalisés par le photographe Richard Connelly qu'elle fera faire lors de sa tournée américaine sur la côte Est entre Boston, New York et Philadelphie. Et donc elle choisira Connelly pour lui tirer le portrait pendant ses conférences. Le dernier portrait que nous pouvons observer, c'est celui tiré par les frères Nadar, que l'on retrouve dans le volume 13 de la collection de 1900, où, là aussi, elle apparaît comme une femme assez plantureuse, habillée à la mode de cette fin du 19e siècle, dentelle, velours, etc. Et on ne la reconnaît pas du tout par rapport à ce portrait de jeunesse. Pour terminer sur cette biographie express, comme vous dire que donc elle est partie, elle a accompagné son père, Jean Fleury, qui va devenir professeur de langue au lycée impérial de Saint-Pétersbourg. Ce qui est d'ailleurs quelque chose d'assez exceptionnel, parce que lorsqu'on est issu du Nord-Cotentin, faire carrière à Saint-Pétersbourg, à la cour impériale, c'est quand même une promotion remarquable. Il est évident que son père faisait partie des gens lettrés en tant qu'autodidacte dans cette région du Cotentin, assez peu de noms connus, à part Arcis de Caumont, mais Bayeux est quand même très loin à cette époque, pour se rencontrer. Peut-être y avait-il un embryon de société déjà académique installée sur Cherbourg, c'est possible. Il faudrait donc revérifier les dates. En tout cas, Jean Fleury décide de partir à Saint-Pétersbourg et sa fille décide de partir avec le père. Je pense qu'il y avait déjà un ménage séparé et que la mère, qui était sage-femme, vivait déjà sur Paris. Donc, Alice part avec son père. À l'époque, il y avait deux fois par mois une espèce de ferrailleur. Hein. Ce n'était pas du tout un bateau de croisière pour rejoindre la Lituanie, l'Estonie et passer, enfin, faire toute la côte baltique afin de rejoindre Saint-Pétersbourg. Dans un peu de ma vie, elle raconte effectivement les difficultés qu'elle a rencontrées lors de la traversée et surtout lorsqu'en Estonie, elle a dû apprendre à lire aux enfants de châtelains. Elle dit, j'ai gagné ma première pièce de 5 sous dans des difficultés terribles parce que les enfants qui devaient parler le russe déjà en Estonie, assez compliqué. Et une fois arrivée à Saint-Pétersbourg, son papa va la placer dans une famille allemande comme dame de compagnie. Ce qui fait que plus tard, elle deviendra institutrice pour les enfants, préceptrice pour les enfants de cette famille. Elle commence aussi à écrire quelques poèmes, quelques textes. Et elle trouve un écho très favorable avec un journaliste du journal diplomatique de Saint-Pétersbourg. Celui qui transite entre la France et la Russie par la valise diplomatique. Et donc, ce monsieur, monsieur Honner, l'encourage parce qu'il trouve que ses travaux sont de qualité. Elle sent donc naître chez elle une vocation probablement littéraire. Il est vrai qu'elle a été fortement nourrie, enfin, son imaginaire a été fortement nourri par une grand-mère, maternelle cette fois, qui lui raconte les légendes que nous connaissons bien de la hague avec les lapins qui font claquer les portes la nuit, le loup-garou, le troubadigan, enfin les contes et légendes quand même sont assez nombreuses dans cette région. Donc elle est nourrie de tout cet imaginaire et en plus elle a un tempérament extrêmement empathique, bienveillant, elle veut s'occuper, elle veut rendre service et cela favorise chez elle le contact, les liens avec les autochtones et elle se nourrit parce qu'elle ne va pas à l'école. C'est une autodidacte, c'est son père qui la forme. Elle maniera 5 ou 6 langues, enfin des embryons probablement, mais elle veut lire Walter Scott, elle se met à apprendre l'anglais. Son papa lui apprend le grec et le latin, bien évidemment. Il faut qu'elle acquiert les humanités. Et par exemple, lorsqu'elle va arriver à Saint-Pétersbourg, au bout de 5 mois, elle parlera, elle comprendra parfaitement, elle s'exprimera en russe de façon probablement remarquable. Pour moi, ça me semble remarquable, mais une évidente facilité. Son papa lui fait apprendre le piano. Elle reçoit les cours du dernier élève de Chopin, le professeur Martinov. Mais elle ne fera pas de concert parce qu'elle n'aime pas le métronome. Le métronome la folle, alors elle ne se sent pas capable de faire des concerts. Mais elle a une culture musicale, ce qui apparaîtra dans des œuvres comme Zobie, n'est-ce pas, où l'héroïne manie non pas le piano, mais le violon. Nous retrouverons aussi cette culture musicale dans une des nouvelles russes qui s'appelle « Un violon russe ». Donc c'est important de connaître la culture qu'elle a reçue dans sa jeunesse parce que ça fait partie de son matériel narratif pour plus tard. Dans ce lycée impérial de Saint-Pétersbourg est également un jeune homme qui s'appelle Émile Durand et qui lui aussi est professeur de lettres. Et finalement, il va épouser Alice. Alors, sur la date de leur mariage, c'est pas très clair. Le biographe Christophe Grandemange dit qu'il y a une période de 4 ans où elle refuse de donner des explications. Elle fait croire qu'elle s'est mariée en Russie, dans l'église Sainte-Catherine, église catholique. Or, elle est de confession protestante, donc quelques incohérences. Il se trouve aussi que pendant cette période va naître une petite fille, Henriette, dont elle ne parlera pas ou peu. Il se peut aussi qu'à cause de cet enfant hors mariage, sa famille du Nord-Cotentin, quelque part, un peu la réprouvera. Donc, il rentre en France après la guerre de 70, quand les charniers se sont éteints. Il s'installe sur la butte de Montmartre. Et là, on trouve un acte de mariage dans la mairie du 9e arrondissement. Pas du 18e, bizarrement, mais dans la mairie du 9e arrondissement. Très bizarrement, il y a quelques zones d'ombre. De ce mariage officiel naîtra une deuxième petite fille, Jeanne, qu'Henri Gréville apparemment adorera parce qu'elle en parle. Mais cette petite fille mourra au bout de 2 ans, faute de médicaments. Et à cette période, elle commence à écrire, mais elle n'a pas réussi à capter plusieurs éditeurs. Donc, il y a peu de revenus dans le foyer Durand Gréville. Il faut signaler d'ailleurs que son époux prendra le double patronyme, Durand Gréville. Lui-même signera ses essais de ce double nom. ce qui est quand même assez rare à une époque où les femmes prennent des pseudos masculins pour être plus à l'aise, être plus reconnues. Mais là, c'est le mari qui lui-même accepte de prendre le nom professionnel de son épouse. Bien, alors je vais, si vous voulez bien, avant de poursuivre mon propos, maintenant que vous avez fait connaissance avec notre romancière, eh bien, essayer de vous montrer cette figure littéraire qui va connaître la notoriété. 70 œuvres de papier, et vous en trouvez une quinzaine ici, 70 romans perdus dans les limbes de l'histoire littéraire française. Sauf qu'il y a des bibliothèques comme la nôtre qui sont les garants de la qualité des œuvres. Le premier écrit qui va pouvoir lui donner une certaine notoriété, c'est grâce à Frédéric Bulloz de la Revue des Deux Mondes qui accepte de publier en feuilleton, comme ça se fait beaucoup à cette époque, un extrait des Nouvelles Russes qui a pour titre L'expiation de Savelli. Et là, le succès arrive d'un seul coup. Et la librairie Plomb, qui est quand même à cette époque présidente du cercle de la librairie française, s'empare d'une œuvre que vient de terminer Henri Gréville et qui s'appelle Dosia. Le premier roman qui est publié en France est Dosia, 1874 également. Le succès va arriver et il s'avère qu'à ce moment, George Sand vient de mourir et la librairie Plomb va choisir en tête de colonne Henri Gréville pour assurer l'effet sentimental, en quelque sorte, le roman psychologique. Il y a donc une notoriété, mais il n'y a pas eu postérité. Comment expliquer ce phénomène? Eh bien, c'est ce que nous allons essayer de voir ensemble. Donc, après que je vous ai présenté les sources d'information, nous envisagerons les zones d'ombre et de lumière de cette carrière littéraire féminine. Et peut-être tenterons-nous de la réhabiliter à la fin de mon propos. Voilà. Donc, en ce qui concerne les sources, nous avons bien entendu quelques sources iconographiques, comme je viens de vous le dire. Et puis, il y a quelques œuvres aussi gravées. Il y a un buste d'Henri Gréville, gravé par Lefebvre, le sculpteur qui a sculpté donc les marbres du théâtre de Cherbourg. Et ce portrait, elle l'a remis, enfin, il est au musée des Beaux-Arts d'Angers actuellement, parce que vous allez voir que dans le déroulé de leur vie, ils ont sans arrêt changé de maison. Soit pour des villégiatures, elle choisira par exemple le Val-de-Loire, parce qu'elle a besoin d'un climat beaucoup plus doux que la pointe de la Hague. Et c'est pour cette raison que ses pieds ne fouleront plus les sables des belles plages de ce Nord-Cotentin, parce que le climat y est vraiment trop rude. Et elle est très affligée de névralgie permanente. Et à tel point que même lorsque Nadar la convoque pour les séances de pose, de photos, elle dit « je ne peux pas venir, je suis barbouillée de teinture d'iode tellement je souffre ». Et elle dit même, j'ai pris froid en enfilant la robe que j'avais choisie pour la pose photographique. Vous voyez, changer de robe lui procure un refroidissement qui se complique. Donc, elle est très très souvent malade. Au niveau des autres sources iconographiques, nous avons également des plaques de marbre gravées, sur lesquelles, là, cette fois, figure simplement son nom. Là, je suis en train de vous parler de la plaque inaugurale que l'on trouve à l'Orphelinat des Arts, encore à Courbevoie, parce qu'elle est avec Marie Laurent, la fondatrice de l'Orphelinat des Arts. Ça date de 1881. Ensuite, ils vont se déporter vers Courbevoie parce qu'au 14 rue de Vanvre, eh bien, la place est trop petite pour recevoir les orphelines, c'est pour les petites filles, les orphelines de familles artistes qui sont complètement abandonnées. Et donc, elle fait partie d'un groupe, elle est vice-présidente de l'Orphelinat des Arts, et elle se démène avec d'autres personnes et des célébrités comme Sarah Bernard qui lui permettront d'abonder les fonds pour que cet orphelinat puisse vivre, se développe, et Victor Hugo passera à l'orphelinat et donnera, vous savez, sous forme de mécénat, des sommes importantes. Ces messieurs dames de la société artiste achetaient un lit à l'époque. Et donc, si vous allez à l'orphelinat des arts à Courbevoie, vous verrez sur la plaque de marbre le nom des donateurs et ce qu'ils avaient donné pour l'équivalent d'un lit ou deux lits, etc. Vous verrez aussi, si vous avez la chance de feuilleter les registres des assemblées générales de cette institution, eh bien, vous verrez le nom de la signature d'Henri Gréville, qui était donc en tant que vice-présidente et probablement assesseur lors de l'assemblée. On trouve également une plaque gravée à son nom à la porte de la bibliothèque municipale de Gréville-Hague. Mais ça, c'est quelque chose de très très récent, un peu avant le Covid, quelque chose comme ça, c'est vraiment très récent. Et puis, on peut trouver également son nom, enfin, on ne trouve pas gravé parce que les Américains ont dû détruire, après l'invasion mussolinienne, ont dû détruire à Menton la stèle qui avait été élevée pour Sissi Impératrice, qui prenait donc ses eaux à Roquebrune-Cap-Saint-Martin. Et cette stèle comportait une ode. Une ode avait été créée pour honorer l'impératrice. Et c'est Henri Gréville qui a donc écrit l'ode que chanteront les demoiselles en tenue niçoise, que vous connaissez bien, voilà. Et donc, le nom d'Henri Gréville était gravé à cette stèle, mais il ne reste plus rien, seulement les archives de Menton que l'on peut consulter. D'autres ressources iconographiques, c'est à peu près tout. Il y a en fait très peu de courriers entre son époux et elle-même, puisqu'elle ne le quittait jamais. Et en plus, il faut signaler que vraiment, c'était totalement fusionnel dans ce couple. On verra à quel point son époux l'a soutenu jusqu'au bout, même après le décès. Les autres sources, nous les trouvons sur ses contemporains qui ont écrit sur ce qu'ils pensaient d'elle. Je citerai Émile Augier, qui dira qu'on a là le maître de la prose claire et vive, qui remarque son style. Théophile Gautier, beaucoup de lettres également émanant de Théophile Gautier, mais aussi un des premiers essayistes, notamment de la Manche, Adolphe Simon, qui, dans son essai Le roman contemporain, quelque part apporte une véritable révélation par rapport à la romancière. Il s'intéresse à quatre de ses ouvrages, notamment Suzanne Normis, La Maison Moraes, Les Nouvelles Russes et Le Moulin Frappier. Il analyse parfaitement les quatre premiers volumes. Il s'excuse même à la fin de cet essai qu'il y en a beaucoup d'autres depuis que la romancière a produit, mais elle va presque plus vite que lui. Il souligne qu'il y a là un véritable talent parce que c'est une romancière qui écrit le vrai. Et si on se rapproche de la réalité, si on s'approche de la vérité, on est dans l'excellence. Vous retrouvez le courant quasiment naturaliste qui s'impose à la fin du 19e, tout au moins le courant réaliste. Au-delà de cet essai d'Adolphe Simon, nous avons cité donc les études critiques réalisées par des hommes de lettres. Beaucoup plus tard, il y a Dorian Brumanvie qui également fait l'analyse d'un autre roman qui s'appelle Le fil d'or Mortefontaine, qui ne s'intéresse pas à la biographie de la romancière, mais qui fait vraiment une analyse poussée de cet ouvrage, de ce roman. Puis beaucoup plus tard, en 1983, Marc Angenot, dans son travail des romans pour les femmes, s'intéresse particulièrement à Henri Gréville. Et lui, il s'intéresse au discours social qu'elle transporte, plus qu'à ses romans. Au discours social qui transparaît d'ailleurs. Il y a tout un paysage social. Hein. Lorsqu'on lit plusieurs de ses romans, elle nous emmène partout, dans cette France de la fin, notamment en Russie aussi, mais dans cette France du 19e. J'ai cité l'excellente biographie réalisée par Christophe Grandemanche, dans des années beaucoup plus récentes, 2014. Et enfin, je pourrais citer également les extraits de littérature réalisés par
l'université de Bari et l'université de Milan qui s'intéressent également à Henri Gréville. Voilà pour les informations les plus récentes. Donc maintenant, j'essayais de travailler à partir des œuvres réelles, des documents que je pouvais consulter. Et j'ai aussi beaucoup consulté à la BNF, sur le site de l'Arsenal, tout le courrier qui a transité entre Henri Gréville et le président de la Société des gens de lettres, Toudouze, et la présidente de la Société des romanciers français, Gonzalès. Des échanges de lettres très importants qui nous permettent de connaître, puisque Henri Gréville est romancière, certes, mais elle est aussi conférencière. Alors les thèmes abordés, c'est les types contemporains français. Elle s'empare également de sa vie à Saint-Pétersbourg et évoque le type de paysan russe. Elle s'intéresse également aux prêtres russes. Et puis un autre volet de ses conférences, qu'elle reproduira pas seulement sur la côte américaine, mais en Suisse, en Belgique, puisqu'elle est allée jusqu'à Anvers, enfin jusqu'à la frontière des trois pays, là, même dans un petit village, faire une conférence pour les ouvriers belges à Verviers. Enfin, elle était vraiment excellente conférencière, et je vous ai dit qu'elle parlait 5 ou 6 langues, mais elle s'exprimait, notamment sur la côte est des États-Unis, essentiellement en anglais. Elle recevait les journalistes en anglais. Je vous parlais donc des différentes sources avec ces courriers émanant les suites de ces différentes conférences. Donc, vous l'avez senti, il y a déjà beaucoup de succès dans ce que je vous présente, hein, notamment au travers de ces écritures et de toutes ces conférences. Alors, comment cela va-t-il se passer ? Eh bien, il y a chez elle quand même une part d'ombre, puisque cette personne n'est pas une salonnière. N'est pas une salonnière par tempérament d'une part, et aussi je crois parce qu'elle manque de financement. Il n'y a pas, comme chez Georges Sand, une propriété foncière, elle n'est pas baronne, etc. Elle ne vit que de son travail et des travaux de son époux, très aléatoire. Donc elle ne peut pas recevoir. Et je crois en plus qu'elle ne s'y prêterait pas, elle est souvent malade, donc voilà. Les mondanités ne lui conviennent pas, en plus elle est très souvent malade, et elle va à cause de ça changer fréquemment de lieu. On la verra, on l'a dit, tout à fait à la fin de sa vie à Menton, parce que là, elle pense que le climat de la Riviera va lui être salutaire. Et c'est pourtant de Menton qu'elle partira vers la clinique des docteurs Solier à Boulogne-Billancourt, les deux neurologues, et c'est là que, deux jours après son arrivée, elle décédera, sans trop savoir exactement ce qui s'est passé. Mais avant Menton, elle tente les cures, ce sera Néris-les-Bains. Elle tentera aussi les plages du Calvados, qui sont plus douces que la côte ouest du Cotentin. Elle ira également très très longtemps, comme je vous l'ai dit déjà, se reposer dans une villa qu'il louait, donc près d'Angers, à Boisbry. Alors, si vous voulez, ces déménagements permanents, à la fois en province comme à Paris, elle habitait Faubourg Poissonnière, elle habitait à Montmartre. Sur la butte Montmartre, il y a eu 3 habitats déjà. Rue Le Pic, rue Germain Pilon et le dernier habitat sur la butte, un rue Tourlac. D'ailleurs, Arvède Barine décrit très bien, qui était son ami, Arvède Barine décrit très bien l'appartement de la rue Tourlac. Elle a habité rue de Beaume, elle a habité quai Voltaire. C'était parfois un peu en fonction de l'argent qu'il recevait. Alors, il pouvait habiter quai Voltaire si la manne était bonne. Bon. Mais cette errance, si vous voulez, l'a parfois éloignée de son éditeur et a rendu plus difficiles les tractations, les négociations avec Plon. Ou aussi plus difficiles les négociations avec son dessinateur, car à l'époque, on fait paraître le roman, mais qui est illustré. Et donc, elle voulait des choses très très précises. On a quelques courriers à cet égard avec Jean-Marie Adrien, qui habitait du côté de la rue de Sèvres, qui était son dessinateur préféré. Donc, de ce fait, elle s'éloigne un peu de son lectorat. C'est quelque chose qui a pu lui nuire. Elle doit aussi supporter la concurrence. Bien sûr, c'est une époque où il y a beaucoup de chroniqueuses, beaucoup de diaristes, beaucoup de femmes qui écrivent, qui ne trouvent pas toutes portes ouvertes chez les éditeurs, certes, mais
malgré tout, les choses avancent un peu. Mais en fait, par exemple, elle va produire chez Plon avec Henri Ardel, une amie, à peu près les mêmes types de romans. Elles ne se font absolument pas concurrence, donc tout se passe bien. La concurrence ne vient pas des femmes, la concurrence vient des hommes, parce que en littérature, à cette époque, c'est quand même le roman qui rapporte le plus. Et ces messieurs voient d'un mauvais œil que les femmes commencent à gagner du terrain. Alors, et on va s'en prendre à la tendance ou les opinions d'Henri Gréville, par exemple, Léon Daudet, Paul Bourget, je ne vous dis pas, et Goncourt, je ne vous dis pas, les méchancetés que ces messieurs romanciers peuvent dire sur elles, parce qu'ils lui font quelque part un peu concurrence. La concurrence, elle va la trouver également dans le monde de la presse. Ce n'est pas une concurrence, ça c'est une critique. Hein. On n'aime pas trop dans certains journaux de l'ultra-droite, comme le Gaulois, les républicaines. Et là, parfois, notamment dans la chronique du samedi, celle de 1883, septembre 1883, le journaliste Étienne est littéralement insultant. Alors là, nous avons du bas bleu. Vous savez, ce bas quand on se met, nous, les dames, au-dessus de la tête pour nous tenir de cerveau. L'abbé Bethléem, ma foi, ne dit pas grand-chose. Lui qui tient l'index des ouvrages à lire ou à ne pas lire, il dira simplement pour qu'un d'entre eux, Follavoine, il dira qu'il faut peut-être mieux le lire, mais avec sa préceptrice, pour avoir quelques explications. Le gouvernement ne la censure pas. Par exemple, elle va écrire un traité d'éducation civique et morale pour les jeunes filles, qui paraîtra en 1883. Jules Ferry ne s'en prend pas ni aux écrits d'Henri Gréville, ni aux écrits de Paul Bert. Donc tous deux sont habilités, il n'y a pas de veto. Donc à partir de ce moment-là, d'ailleurs, les ouvrages d'Henri Gréville seront sur toutes les étagères des bibliothèques des toutes premières écoles. Et l'inspecteur de l'Académie de la Manche réagit très vite pour qu'on puisse bénéficier des ouvrages d'Henri Gréville. Alors, quelles sont encore les autres zones d'ombre qu'elle a pu supporter ? La pauvreté, puisque au bout d'un moment, malgré tout, la notoriété va tout doucement s'effriter, peut-être à force de produire parfois 6 romans en 4 ans. Peut-être le thème va-t-il peu à peu s'émousser et le lectorat se fatiguerait. Ce n'est pas qu'à elle que cela arrive, même on va finir par se lasser de Jules Verne. Un léger effritement donc de sa notoriété. On arrive dans les années 1890-95. Pour en terminer avec toutes ces ombres qui ont plané sur elle, elle se heurtera aussi justement à ce mouvement féministe naissant. Et elle aura des critiques très vives, par exemple d'Hubertine Auclert, qui vient de lancer son premier journal La Fronde, et qui ne supporte pas, par exemple, les propos d'Henri Gréville, enfin, elle ne supporte pas ses écrits, à cause de ce conformisme que l'on veut absolument briser à tout coup par ces groupes féministes. Elle n'adhérera pas du tout à ces partis-là, donc elle en subira les conséquences. Elle en subira également les conséquences lorsque, par exemple, il faut renouveler le tiers des membres de la Société des gens de lettres. Elle est pourtant pressentie dans les travaux préparatoires d'investiture et même certaines dames qui participent au comité s'insurgent et le disent clairement. C'est le cas de Madame Roussin qui participe au comité. Elle dit « Je ne souhaite pas qu'une femme soit présidente de la Société des gens de lettres ». Donc elle est évincée, elle ne va même pas jusqu'au bout des derniers travaux préparatoires. Elle est évincée et la presse internationale s'insurge, notamment la Gazette de Lausanne et le Journal de Genève, qui sont les supporters, les fanatiques assurés, témoignent qu'il y a là quelque chose de complètement illogique. Mais ce sont les femmes qui, elles-mêmes, ne veulent pas encore cette explosion de l'esprit féministe. Beaucoup de difficultés pour être romancière à la fin du XIXe siècle. Et pourtant, de la lumière quand même, beaucoup de satisfaction lorsque paraît Dosia, donc en 1874, et qu'à partir de ce moment-là, Plon va éditer pendant 40 ans les œuvres d'Henri Gréville. et même des personnages comme Edmond Abou qui lui avait refusé Dosia alors qu'elle lui proposait gratuitement, va tout d'un coup se rattraper et pour son journal acheter Dosia à prix d'or. Elle aura aussi quelques satisfactions, on la trouvera au déjeuner artistique et littéraire à la Cigale, les demoiselles Gonzalès, les filles du président et Henri Gréville en tant que personnage féminin. Donc c'est quand même assez remarquable pour le citer. On la trouve aussi à l'hôtel Continental à Genève, on la trouve en repas à côté d'Émile Girardin, patron de presse, et Ferdinand de Lesseps, par exemple. Donc voilà des grands noms de cette époque qu'elle est amenée à fréquenter. Gambetta aussi lui demandera de lui écrire un livre. Pour Gambetta, elle écrira Louis Breuil, Histoire d'un pantouflard. Elle reçoit également, il faut que je vous le dise, à l'occasion de Dosia, elle reçoit le prix Montyon, décerné par l'Académie française, au titre des œuvres comportant un esprit humaniste. Hélas, elle ne recevra pas le prix Nobel, pour lequel elle était également pressentie, cooptée par Pierre Loti, parce que, tout simplement, elle meurt. Le prix Nobel, vous le savez, est décerné vers novembre, voilà, est remis en décembre, et Henri Gréville meurt le 27 mai 1902. Et son mari, qui aura été son plus grand supporter, parce que je pense qu'il voyait en elle un génie livresque, et de roman en roman, il l'a poussée pour qu'elle continue. Son mari écrira au roi de Suède, Gustave de Suède, pour lui présenter le cas, parce que le dossier est prêt. Et il ne pourra pas obtempérer, puisque dans les statuts de ce prix, il n'est pas prévu qu'il y ait une remise posthume, tout simplement. Elle n'obtiendra jamais le prix Nobel, peut-être l'aurait-elle eu à la place de Selma Lagerlöf, enfin. Elle va donc terminer sa carrière quand même avec les honneurs, puisqu'elle nous laisse quand même une œuvre romanesque patrimoniale importante. Nous y trouvons à la fois un pilier social et un pilier psychologique. Alors on peut se demander peut-être, à l'aune du XXIe siècle, par quel prisme aborder cette lecture ? Est-ce qu'il va y avoir pour le lecteur d'aujourd'hui proximité ou distance? Comment la comprendre? Alors, avant de répondre, bien sûr, cela suppose quand même que je vous présente, même si je ne vous en ai pas donné tous les titres, que je vous présente la technique grévillienne. D'abord, on peut tout simplement se demander, c'est les démodés. Eh bien, quand on lit les romans, alors, il y a Dosia, il y a Bonne-Marie, la fille de Dosia, il y a Sonia, il y a le mari d'Orette, etc. D'ailleurs, vous constaterez qu'il y a très souvent comme titre un prénom de jeune fille. Mais ça, est-elle démodée? Eh bien, dans le début de chacun de ces romans, il y a forcément une rupture. Il y a un deuil, il y a ceci, ou il y a un départ, il y a une rupture. Mais en quoi est-ce que ce serait démodé? Depuis l'Iliade et l'Odyssée, c'est l'enlèvement d'Hélène qui assure la guerre de Troie. Et là, nous avons déjà la trame dramatique. Notre romancière va exactement de la même manière partir sur un drame pour faire éclater le roman. Un grand bond dans l'histoire littéraire française, prenons des romancières contemporaines. Françoise Bourdin, par exemple, etc. Janine Boissard. Regardez ces romans, il y a toujours une rupture dès le départ. La mort de la tante Mathilde qui va leur permettre d'hériter du chalet des Aravises et hop, un retournement des structures familiales immédiat. C'est la rupture qui crée l'histoire. Janine Boissard, Marie Tempête, apprendra grâce au naufrage qu'il y a un enfant adultère quelque part. Et il ne s'agit pas que de la littérature féminine. Frison Roche, eh bien, dès le départ, dès les premières pages, il y a le vieux montagnard, émérite éclaireur des plus hautes pistes, qui tombe dans une crevasse. Donc, voyez-vous, à tout moment, depuis l'Antiquité, il y a une rupture. En cela, Henri Gréville n'est pas démodé. Après, il faut quand même incarner les personnages, et il faut les incarner dans un lieu, à une époque précise. Et là, il est vrai que Henri Gréville, nous l'avons dit dès le départ, il s'agit de réalisme en littérature, et elle va s'appuyer sur le paysage social qu'elle connaît parfaitement. le misérabilisme de la fin du 19e. Ma foi, les livrets d'opéra ne font pas mieux, hein, la ma bohème. Hop. Donc, nous sommes en pleine difficulté, en pleine misère sociale. Donc, cela apparaît dans le paysage créé par Henri Gréville. La même chose pour ses romans russes. Rappelons-nous que lorsqu'elle arrive en Russie, elle est arrivée en 1857, le servage ne sera aboli qu'en 1861. Donc elle a vécu la fin du servage. Donc elle sait comment a vécu la population, la misère des paysans russes. Mais nous trouvons d'autres romans dans lesquels elle évoque une population provinciale, donc Madame de Dreux par exemple. Donc c'est un autre paysage social qu'elle nous décrit. Donc, il y a une universalité dans ce panorama sensible, mais qu'elle fait passer, si vous voulez. Nous ne sommes pas dans des descriptions à la Proust où on chasse le détail. Non, non, non. Il y a quelque chose de beaucoup plus sensible chez Henri Gréville. Le décor est placé, mais il se fond dans le phénomène, dans l'effet sentimental. C'est plutôt ce qui l'intéresse. Son héroïne privilégiée, c'est la jeune fille, la jeune femme. Alors, la jeune fille, forcément l'orpheline. Vous aurez des titres comme Perdu. La jeune fille, la fillette, orpheline. La jeune fille, bien sûr, également qui se retrouve seule et que l'oncle et la tante vont héberger et qui, bien entendu, donnera des leçons de piano pour vivoter. Enfin, on n'est pas très loin non plus de ce qu'ont vécu nos arrière-grand-mères. Hein. On a entendu parler de tout ça. Alors, elle va aussi traiter de la femme trompée. Et on sent que la société bouge quand même un peu, parce que ça apparaît dans les romans. Et elle va même jusqu'à traiter la jeune fille, qui est de plus en plus perverse. C'est quand même très nouveau aussi. Vous voyez, on est très loin du roman Fleur Bleue. Hein, ça ne tombe jamais dans la mièvrerie, ni dans la sensiblerie. Même si on sent qu'il y a beaucoup d'affection entre l'auteur et ses personnages. Comment cela va-t-il se passer avec ces héroïnes qu'elle incarne, comme vous l'avez compris, dans un certain milieu, dans un certain paysage? Eh bien, il va se passer ce qu'on peut appeler le temps du regard. Elle les observe dans cette situation de rupture, de deuil, de divorce même, et elle fouille dans leur âme. Elle crée des sillons pour voir un peu les réactions, le déroulé des sentiments. Elle met en mots, finalement, ce que ressentent les femmes. Et c'est en cela qu'elle défend notre cause. On est entre une métaphysique de l'amour, parce que c'est toujours des conflits sentimentaux, devoir, amour, le devoir exigé par la morale, le corset social rigide, encore particulièrement rigide de l'époque. Une métaphysique de l'amour, ou une secrétaire des bons sentiments, les méchantes langues diront secrétaire des bon sentiment. Mais si on regarde un peu aussi la littérature de façon plus générale, il faut repartir vers Marivaux, qui s'est intéressé un peu à la psychologie féminine. L'adorable conteuse qui était George Sand n'est pas allée si loin. J'ai bien dit l'honorable conteuse. Elle les observe et en traduisant en mots ce qu'elle ressent, on va passer du temps du regard au temps du miroir, parce que la lectrice se retrouve dans les percepts qu'elle vient de créer par ses mots. Et la lectrice, finalement, ou l'héroïne d'ailleurs, devient plus consciente de sa situation. Du même coup, elle l'analyse. Car l'écrit rend plus consistant la réalité de ce que vit la femme ou la lectrice en général. L'écrit, elle l'a sous les yeux. Et ça lui permet de réfléchir. Et cette réflexion est une estime d'elle-même, ce qu'elle n'avait jamais eu jusque-là. Et c'est en cela qu'il y a un mouvement de libération. Voilà en quelque sorte la technique grévillienne que l'on retrouve dans pratiquement tous les romans. Parfois, la fragilité, la vulnérabilité psychologique se trouve chez le monsieur, mais c'est plutôt rare. Dans ce cas-là, elle va s'intéresser davantage à la femme dominante. Mais on sent quand même une évolution parce que, effectivement, si on part de Dosia 1874 à Zoé 1902, c'est plus la même femme. Il y a une évolution dans les mœurs et une évolution dans la littérature, dans la perception de la femme. C'est pourtant très discret chez Gréville. Et c'est avec cette empathie, cet attendrissement qu'elle a pour son héroïne, Oh, vous ne trouverez jamais de fureur, de grands débats, c'est vrai. Mais quelque part, quelque chose d'être plus tolérant à l'égard de la situation qui est faite aux femmes. Et justement, quand nous parlions de ce prisme de lecture, sous quelle angle on pourrait désormais l'aborder, vous devez bien admettre qu'il y a un côté désuet, un peu suranné, dans le paysage social qu'elle présente. Mais c'est quand même le paysage dans lequel ont vécu nos arrière-grand-mères. Elle livre là une œuvre patrimoniale, finalement. Et ce qui nous permet, effectivement, de mieux la comprendre. C'est avec donc cette arme-là qu'on pourra dire qu'elle a permis une certaine évolution de la condition féminine, comme si elle était une éveilleuse de la conscience féminine, dans toute discrétion. Bien sûr, puisse la tendresse de nos sentiments à son égard, malgré l'énorme plongeon, on vient de le dire, plus de 120 ans, du bain vertueux de l'oubli dans lequel elle était tombée, puisse la tendresse de nos sentiments la faire désormais de nouveau affleurer dans nos lectures. Et si elle ne fait pas partie de la haute littérature, Madame de Lafayette, Madame de Staël, eh bien, elle n'a pas été non plus la monstrueuse jupe qu'on voit apparaître à la fin du 19e, la Folle de Rachid. Je pense qu'elle méritait bien une place d'incontournable dans la littérature de l'entre-deux-siècles. Je vous remercie.